la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Ijekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains.
Ouais, c'est bien. Je vais continuer. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur ? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. » Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché, m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité, personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. » Je pense qu'on va tout lire, en fait. Comme ça, on a la vision complète, et puis on verra en détail la semaine prochaine. Donc, dans le chapitre 11, on continue. « Quant à moi, la première année du règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la frontière du roi du sud. Le roi du sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du nord, il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du nord reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du sud. Des hommes violents, issus de ton peuple, se soulèveront pour accomplir la vision et ils trébucheront. Le roi du nord viendra, il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du sud et l'élite du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie, il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance Sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'Alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. À ce dieu que ne connaissent pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront, mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir. Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu mais sans comprendre, et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. » Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Donc ça, c'est la dernière vision de Daniel dans son ensemble. Donc on se trouve... A priori, on regardera quand j'aurai les choses pour vous. La troisième année du règne de Cyrus, le roi de Perse. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? C'est donc le royaume de Perse, on n'est plus sous le royaume de Babylone, on est presque à la fin de la vie de Daniel. On estime qu'à ce moment-là où il reçoit cette vision, il a 85 ou 90 ans, on n'est pas... Pas sûr, suivant la date à laquelle il avait été déporté et quel âge il avait. Mais c'est déjà un homme avancé dans l'âge. Et a priori, le premier édit du roi Cyrus, qui avait accordé le droit aux Juifs de retourner reconstruire le temple à Jérusalem, avait été déjà donné. Donc il y a un premier édit qui a été annoncé par le roi qui a dit « C'est bon, vous pouvez retourner reconstruire le temple. » On se dit que, sans doute que Daniel, dans son cœur, aurait bien aimé rentrer à Jérusalem. Il aurait sans doute aimé participer à cette reconstruction. Mais voyant son âge et voyant la difficulté de voyager à cette époque-là de retourner au pays, ça aurait pu être déjà difficile pour lui. Et ensuite, à 85-90 ans, on ne sert pas forcément à grand-chose pour reconstruire. Pratiquement, physiquement, il ne pouvait pas aider concrètement. Par contre, en restant à la cour du roi, il pouvait continuer à influencer le roi et garantir une certaine faveur de la part des autorités dans leur entreprise. Et on va voir, d'ailleurs, on va regarder brièvement Esdras dans une minute pour voir qu'en fait, il y avait des problèmes et des oppositions à cette reconstruction du temple à Jérusalem. C'est aussi pour ça qu'il y a eu plusieurs édits. C'est parce qu'il y a eu des luttes pour ne pas que le temple soit reconstruit. D'ailleurs, en fait, on va regarder Esdras maintenant. Esdras, c'est après 2 Chroniques et c'est avant Job et Psaume. Et donc, on voit au chapitre 1 d'Esdras, le premier édit de Cyrus, qui se passe la première année de son règne sur la Perse. On ne va pas le lire au complet, mais en lisant ces premiers versets de ce premier livre, on a l'édit qui est annoncé par Cyrus pour que les Juifs puissent retourner à Jérusalem, commencer à reconstruire le temple. On a, chapitre 2 d'Esdras, une liste des Israélites qui retournent. Le chapitre 3 nous montre un petit peu le rétablissement de l'autel et le commencement des travaux. Et ensuite, le chapitre 4 nous annonce que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'opposent. Verset 4, « Alors les populations du peuple découragèrent le peuple juif et l'intimidèrent pour l'empêcher de construire, et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. » Ça, c'était le verset 4 et 5. Pour avoir toute l'histoire de la reconstruction et les différentes étapes, il faut regarder Esdras et Néhémie plus en détail. Mais il y a de l'opposition à ce qui se passe, et par rapport aux dates et par rapport à la chronologie, on peut penser que Daniel est au courant de ce qui se passe et qu'il est peut-être conscient qu'il y a une bataille spirituelle, il y a de l'opposition pour cette reconstruction. Dans le retour qui a eu lieu après ce premier édit, il n'y a qu'une partie des Juifs qui est retournée à Jérusalem. Une grande partie qui n'était pas encore retournée. Et ça aussi, c'était peut-être quelque chose qui attristait Daniel, de voir que les Juifs n'embrassaient pas complètement cette action, on va dire, de Dieu pour eux. Il y avait peut-être chez lui un sentiment que le peuple ne voulait pas retourner, peut-être par facilité ou par manque de conviction et c'est sans doute ce qui était dans son esprit, toutes ces choses, cette opposition, cette reconstruction qui était interrompue, alors que c'était quelque chose qu'il avait, on avait vu sur le cœur le chapitre précédent, il avait prié Dieu pour qu'il leur pardonne et qu'il puisse rentrer. On voit donc qu'il va faire le deuil pendant 3 semaines. Auparavant, il nous écrit que la parole qu'il va annoncer dans les chapitres 10, 11 et 12 est vraie et qu'elle annonce un grand combat. Et c'est bien ce qu'on a lu dans le chapitre 11. On a vu des rois qui vont, qui viennent, qui rassemblent des troupes, qui sont défaits, qui reviennent, qui retournent. Il y a une grande bataille, un grand combat. Et on voit que Daniel est attentif à cette parole, attentif à ce qu'il reçoit, mais qu'a priori il la comprend. Ça, c'est tout le verset 1. Et donc, au verset 2, il nous raconte dans quelles circonstances il s'est mis. Il a été 3 semaines dans le deuil. Il n'a mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du jeûne de Daniel. Mais c'est pas vraiment le texte ici qui nous annonce ça. Ici, il nous dit qu'il n'a pas pris, il s'est réservé, il a été dans une attitude de deuil où il n'a pas mangé certains mets, les viandes et les vins. Mais il n'est pas vraiment question de jeûne ici. Mais il se met encore une fois dans une condition, on va dire propice, physique. Il se limite par rapport à ce qu'il mange, par rapport à ce qu'il ce qui va l'affecter. Il ne s'occupe pas vraiment de son apparence extérieure. Il ne s'est pas parfumé. Et ensuite, le verset 4, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le tigre, ou dans l'autre texte, c'était quoi? C'était Édékel, qui est un autre nom pour le fleuve, c'est le tigre. Donc il se trouve au bord du fleuve, là, verset 4. Et verset 5, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Qui c'est ça et à quoi ça vous fait penser?
Ça ressemble à la description que de Jean dans l'Apocalypse, dans le premier chapitre.
Oui, ça ressemble à la vision dans Apocalypse.
La vision de Jésus.
Est-ce qu'on peut s'y tourner dans Apocalypse 1, verset 13, on peut regarder 13 à 16. Tu veux le lire, Anne?
Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Donc, quand on regarde les éléments de la description, dans Apocalypse, verset 13, on a un homme habillé d'une longue robe et qui a une ceinture en or sur sa poitrine, ce qui correspond à la vision de Daniel, qui voit un homme vêtu de lin avec une ceinture d'or, deux phases. Il a les yeux comme des flammes de feu, qui est la même description que ce qu'on voit dans Apocalypse, dans le verset 14. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent ou de l'airain. C'est ce qu'on voit dans Daniel, où il dit que ses bras et ses pieds avaient l'apparence du bronze poli. Et ensuite, le bruit de ses paroles, qui sont comme le bruit d'une multitude ou comme le bruit des grandes eaux. Il y a vraiment des parallèles frappants ici entre les deux visions. Il a aussi, dans Apocalypse, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Mais dans Daniel, son visage avait l'aspect de l'éclair, quelque chose de vraiment très brillant, de très lumineux. Et donc on a ce parallèle qui semble absent de toute différence. C'est vraiment une vision de Jésus ici que Daniel a. Dans les commentaires de la Bible annotée, il y a un petit commentaire qui est fait, qui est intéressant, où qui note la progression dans les circonstances de la vision, des visions que Daniel reçoit, et par rapport à la manière dont il reçoit les visions et dont on lui communique les choses. Dans le chapitre 7, c'est dans un rêve ou un songe que les choses lui sont révélées, et on lui explique les choses. Il a une vision d'un vieillard ou d'un de la personne d'autorité, et c'est un des assistants qui va lui donner l'explication. Ensuite, il a une vision à l'état de veille avec l'ange de l'Éternel qui ordonne à Gabriel de lui donner l'explication. Au chapitre 9, Gabriel vient en réponse à sa prière lui apporter la révélation des 70 semaines. Et sur ce dernier chapitre, il y a ce personnage qui est a priori Jésus, qui va lui apparaître et en partie lui parler, le toucher. Il y a aussi un ange aussi qui va lui parler. Et dans la Bible annotée, ils disent que c'est comme si dans l'âge avançant de Daniel et dans sa foi et sa relation avec Dieu qui avance, il y a une vision. Les visions lui viennent de plus en plus naturellement, comme mélangées à la réalité pour lui. C'est plus quelque chose où il est en rêve la nuit, il est debout, il voit les choses, c'est comme s'il a une vision qui devient de plus en plus claire, où il voit les réalités spirituelles en même temps que les réalités physiques. Il y a un avancement. Alors c'était une des commentaires. Alors il y a des, c'est pas quelque chose d'absolu, mais c'était intéressant de noter cette, cet avancement et le fait que de réfléchir aussi à cet avancement de Daniel dans sa compréhension des choses et dans sa manière de voir la réalité spirituelle qui se cache derrière toutes les réalités physiques et tous les rois et les royaumes et les choses qu'il voit autour de lui. Et on va regarder un petit peu cette bataille spirituelle qu'il y a derrière, que Daniel semble voir vraiment très clairement à cet âge avancé où il a tellement passé de temps dans la prière et dans la recherche de Dieu et cette réalité spirituelle qui devient plus claire et plus présente pour lui. Oui.
Il est bon de noter dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages où on parle justement de, selon le terme de l'ange de l'Éternel, souvent désigne une apparition de Jésus avant son incarnation. Et là, il y a, le terme n'est pas utilisé, mais on avait parlé pour d'autres. Et à chaque fois qu'on voit le terme ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il faut se demander est-ce que c'est pas l'ange avec un grand A en parlant de Jésus.
Mmh. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non. Donc, dans Daniel, verset 7, « Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette apparition et je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé, comme dans une profonde torpeur, le visage contre terre. » Cette vision et la voix de cet homme le frappe et il tombe dans les pommes, on va dire. Il tombe par terre sans force.
Pourquoi il y a autant de répétitions?
Je pense que ça donne un petit peu un sentiment de vraiment l'état dans lequel il se trouvait, quoi. C'était pas, c'était vraiment. Il y a des petites nuances quand même suivant les moments.
J'entendais
le son de ses paroles. Où ça? Verset 9. Verset 9, il dit « J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé. »
C'est la version que je vais répéter.
D'accord. Mais c'est pour montrer que c'est vraiment simultané avec quand il a entendu, il tombe.
En français, on évite beaucoup les répétitions, mais il y a plein de langues, même en anglais, où on est moins gêné de répéter les termes de l'expression.
Mm-hmm. Oui.
Oui, parce que regarde, moi, Daniel, je vis seul la vision. Je restais moi seul. Il y avait moi, les jeux, les seuls. Enfin, on a compris quoi, il était seul. Tu vois. Mm-hmm. Donc, dans tous les versets, c'est répété et c'est que lui. C'est vraiment l'exclusivité. J'avais vraiment l'impression qu'il y a une mise en valeur dans tout ça. Si c'était pas volontaire, c'est pas.
Ça rappelle Paul et sa vision à Damas.
C'est quelque chose qui arrive souvent quand ça j'allais y venir, mais c'est ça c'est plus par rapport à la réaction quoi. C'est une réaction qui dans la Bible arrive souvent quand quelqu'un a une vision comme ça de l'ange de l'Éternel ou de Jésus. Il y a une en général la réaction c'est de se cacher, de se retrouver face contre terre, de tomber dans les pommes, d'être complètement il y a plusieurs choses qu'on peut noter par rapport à ça, mais c'est déjà en considérant Daniel, enfin on a parlé du fait que Daniel avait tellement un caractère d'homme saint qu'on pouvait regarder comme quelqu'un de qu'on peut regarder un petit peu comme quelqu'un comme un exemple spirituellement, et même lui face à Dieu, face à Jésus, dans l'impression qu'on a de sa vie de quelqu'un de vraiment qui n'a pas commis beaucoup d'erreurs, c'est quelqu'un qui face à Jésus est insuffisant et qui est par terre quoi, devant Jésus qui ne peut que s'incliner. Et une deuxième observation qui est intéressante, c'est de voir ses compagnons qui ne voient rien, qui ont juste la peur de leur vie et qui s'en vont. Et là, c'est intéressant parce que nous, on aime bien se mettre dans la position de Daniel, mais est-ce que finalement, on ne serait pas dans beaucoup de cas dans la position des compagnons, dans des circonstances ou des conditions où finalement, on est insensible spirituellement, on n'arrive pas à entendre ou voir ce que Dieu veut montrer parce qu'on n'est pas... parce qu'on n'a pas pris le temps d'être en communion avec lui, parce qu'on n'est pas prêt peut-être spirituellement dans la prière, dans la parole. Et donc quand Dieu vient pour annoncer quelque chose, on ne le voit pas, quoi. On ne le voit pas ou on n'entend pas. Et là, on voit, c'est quelque chose qui est encourageant. Le verset 10, « Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. » Verset 16, on va voir aussi qu'il y a quelqu'un qui avait une apparence humaine, a touché mes lèvres. Et le verset 18 aussi, alors celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi avec Ésaïe ou avec Jérémie. C'est cette touche de l'Éternel pour fortifier, pour encourager. Il y a des questions pour l'instant, on va peut-être faire la pause et puis on regardera la fin après.
Une question,
oui.
À cause de Jésus, est-ce qu'il apparaît toujours de la même manière si on voit la description comme ça? Est-ce que c'est toujours avec les yeux comme des flammes? Ou ça change un peu de vision de personne?
Je crois que ces deux-là sont les deux qui sont décrites de cette manière-là. Il y a vraiment un parallèle. Et après... Je ne suis pas sûr des autres visions ou des autres apparitions. On peut regarder dans la transfiguration, dans Matthieu 17, où il y a des éléments un petit peu semblables, mais qui sont limités seulement à certaines caractéristiques. Dans le verset 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Alors, il y a toute une symbolique dans les différents éléments de la vision et dans les éléments qui le caractérisent. J'ai pas tout noté, mais par exemple les yeux avec des flammes de feu représentent son jugement et le fait que c'est devant son regard sur les choses qu'il y a les flammes représentent le jugement. Dans Apocalypse, il parle de l'épée qui sort de sa bouche, une épée à deux tranchants qui correspond à ce qui est dit dans Hébreu à propos de la parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant. La ceinture d'or, j'ai pas noté. Pierre, tu te souviens de toute la symbolique ou Daniel?
Bon, j'avais dit en fait, une bonne recherche c'est de faire sur un programme l'ange de l'Éternel est par exemple dans le livre des Nombres. C'est la personne qui interrompt l'âne, l'ânesse de Balaam. Et là, il a aussi une vilange de l'Éternel passé sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui parle. Donc, ce n'est pas toujours la même description que celle de l'Apocalypse ou de Daniel. Il y a souvent des éléments qui sont repris parce que c'est la même personne. Mmh. Et une chose aussi à noter, c'est qu'il est populaire dans certains cercles chrétiens charismatiques de voir les gens qui tombent à la renverse en présence de Dieu. Et là, on voit que dans toutes les situations où il y a des hommes de Dieu qui sont en présence de Dieu, ils tombent la face, ils se prosternent la face la première. Les seules descriptions où on voit des gens qui tombent à la renverse dans la Bible, c'est lorsque les soldats viennent mettre la main sur Jésus, ils tombent tous à la renverse. Et ça devrait guérir tous les fanatiques de Benigim qui veulent des manteaux qui sont agités et qui sont tombés à la renverse. C'est pas du tout biblique. Mmh.
Ben non, pas du tout, mais c'est la ceinture. Enfin, mais
je
vais avoir des symboliques, je peux chercher,
il y a
des symboles.
Ah,
tu cherchais la symbolique
de la ceinture d'or. Je regarderai ça, mais...
L'ordre, c'est la royauté, c'est la divinité, la ceinture, c'est ce qui tient toute la personne, la justice. La ceinture de justice dans Éphésiens 6 ou dans Jérémie, ce sont des termes qui reviennent, mais ça, c'est vrai que ça, c'est toute une étude. Mm-hmm.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on précise toujours la ville.
lors de cette ville, de ce pays-là. Et je me dis, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Est-ce qu'il était blanc, rose ou jaune, ou je ne sais pas quoi?
Mais ça donne une valeur historique, quoi.
Là, il y a une référence aussi, cet ordre du phase, ça a une référence, je crois, dans Nombre ou dans Deutéronome. Qui était quelque chose dans la description par rapport à l'or utilisé pour le temple, il me semble. J'ai pas noté la référence exacte, mais
probablement la meilleure qualité d'or qui existe à l'époque, quelque chose comme ça.
C'est aussi quelque chose dans le, comme le disait Pierre par rapport à la répétition, c'est aussi quelque chose qui caractérise souvent les écrits de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on associait souvent quelque chose d'une valeur ou d'une qualité élevée, c'était souvent associé à un lieu où il y avait une spécialité. On parle des cèdres du Liban, on parle de l'or d'un endroit, où souvent il y avait une association par rapport aux objets et la qualité par rapport à un lieu.
Aujourd'hui encore.
Oui.
La clairette de Dieu.
On va faire la pause et puis on reviendra après.